Ceci en parle, une nouvelle série d'émissions radio mensuelles présentée par Ceci Sénégal. Ceci, centre d'études de coopération internationale, est une société canadienne à but non lucratif. Sa principale mission, combattre la pauvreté et l'exclusion sociale. Depuis 1984, Ceci travaille, entre autres, au renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles de la société civile, au développement économique durable dans le milieu rural, à la sécurité alimentaire et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Abordant des thèmes différents à chaque émission et sur des sujets qui intéressent les femmes et les jeunes Sénégalais, une animatrice s'entretient avec des spécialistes du Ceci Sénégal. Un rendez-vous à ne pas manquer. Ceci en parle, votre nouvelle émission thématique sur Trade FM 88.1.
Bienvenue à ce deuxième numéro de votre émission Ceci en parle. C'est une série de quatre émissions que la Trade FM et son partenaire Ceci, le Centre canadien d'études et de coopération internationale, qui vous propose jusqu'au mois de décembre cette émission. Et pour ce deuxième numéro, nous allons aborder avec Madame Dialekatou Bari Diallo, qui gère ce volet renforcement ou amélioration du pouvoir économique des femmes au niveau de Ceci. Et nous avons sur ce studio d'autres invités également qui vont témoigner sur la thématique amélioration du pouvoir économique des femmes. Alors, Madame Diallo, Dialekatou Bari, vous êtes volontaire et conseillère en gestion entrepreneuriat féminin au Ceci. Bienvenue et très heureuse de vous accueillir à nouveau à notre studio.
Merci, Madame Diaye. Merci à tous les auditeurs et auditrices de la radio FM. C'est un honneur et un grand plaisir d'être là aujourd'hui encore pour vous entretenir autour du renforcement du pouvoir économique des femmes au Sénégal avec l'accompagnement du Ceci.
Nous avons aussi une autre grande dame, il s'agit de Safiyetou, Madame Safiyetou Diop. Vous êtes la présidente du réseau Sigil Djiguen. Madame Safiyetou Diop, bonjour.
Ah, bonjour.
Bienvenue aussi.
Bonjour, c'est un plaisir vraiment d'être là à la radio Trade FM pour parler du Ceci.
Qui est votre partenaire également.
Absolument.
Alors, sur ce plateau, nous avons aussi M. Djibril Ousmane Ndong. M. Ndong, bonjour. Vous êtes aussi du réseau Sigil Djiguen, responsable chargé du suivi et évaluation à ce dit réseau. Bonjour, M. Ndong.
Bonjour, Mme Ndiaye. Merci pour l'invitation à Trade FM. Et je pense que nous allons partager une heure de discussion intéressante.
Mm-hmm. D'accord. Je rappelle aux auditeurs que la thématique que nous allons aborder, c'est l'amélioration du pouvoir économique des femmes. Et c'est Mme Dialekatou Bari qui gère ce volet au niveau du Centre d'études et de coopération internationale, Ceci. La première question que je vais adresser à Mme Diallo, c'est quelle est l'approche de ce Centre canadien d'études et de coopération internationale en matière de renforcement du pouvoir économique des femmes? Quelle est l'approche que vous avez mise en place dans ce cadre?
Merci, Madame Diaye. Et avant de répondre à la question sur l'approche du Ceci sur l'amélioration du pouvoir économique des femmes, j'aimerais quand même faire un petit rappel, même si le spot publicitaire en parle. Le Ceci, c'est le Centre d'études et de coopération internationale. C'est une ONG de coopération internationale qui a été créée depuis 1958. Mmh. Et depuis, le Ceci appuie et contribue à travers des projets de développement et humanitaire au renforcement du pouvoir économique, avec pour mission de combattre la pauvreté et toute forme d'exclusion. Et une vision d'un monde sans pauvreté, inclusive et égalitaire dans la célébration de la diversité. Alors, en revenant à l'approche du Ceci pour l'amélioration du pouvoir économique des femmes, en actualisant sa politique d'égalité entre les femmes et les hommes, le Ceci, en 2007, a fortement réaffirmé son engagement d'accompagner les femmes pour leur autonomisation à travers des projets thématiques, à travers le renforcement de leurs capacités, étant donné que la pauvreté se définit non seulement par un manque de savoir, d'avoir d'abord, mais c'est aussi un manque de savoir et de pouvoir. C'est pourquoi, dans l'approche du Ceci, on prend en compte tous les facteurs qui aggravent ou qui entravent la capacité d'agir des femmes. C'est-à-dire, nous tenons compte de ce qu'on appelle de l'intersectionnalité. Et l'analyse intersectionnelle est cette théorie qui explique pourquoi des facteurs comme l'âge, comme la pauvreté, le statut socio-économique, comme par exemple un handicap peut venir aggraver la situation d'une femme. Et le processus de renforcement du pouvoir économique des femmes les aide à avoir la confiance, l'estime de soi, les aide à influer sur les politiques et les visions et les priorités des gouvernements, par exemple. Et ça fait en sorte que ces femmes-là puissent contribuer de façon égalitaire avec les hommes et surtout d'être reconnues comme des actrices de la société au même pied d'égalité que les hommes. Et pour nous, le renforcement du pouvoir économique des femmes, ce n'est pas un pouvoir contre un autre, c'est plutôt un pouvoir positif. Je vous ai d'ailleurs dit ce que ça fait pour aider les femmes. Et nous savons qu'au Sénégal, par exemple, et pratiquement partout dans le monde, les femmes, c'est au moins la moitié de la population. Donc, les aider à renforcer leur pouvoir économique veut dire aider toute la société et participer au développement.
D'accord. J'ai envie de poser cette même question à Madame Diop sur le processus de renforcement de capacité des femmes. Vous, vous avez l'expérience dans la sensibilisation, dans la formation des femmes pour qu'elles soient autonomes de manière financière, de manière économique. Quelles actions, par exemple, les CCI fait et qui vous marque et que vous avez vu des résultats positifs par rapport à ça?
Très bien. Je pense que la question est véritablement la bienvenue au réseau Sigidjigen. Mais vous me permettrez, ma sœur, vraiment de revenir sur l'historique des relations entre le CECI et les femmes sénégalaises, même avant le réseau Sigidjigen, jusqu'au réseau Sigidjigen, parce que c'est ça qui est déterminant et c'est ça qui, aujourd'hui, peut expliquer l'action positive du CECI sur les femmes et sur le pays. D'abord, je voudrais vraiment saluer d'abord le CECI et tous les responsables actuels du CECI, particulièrement notre frère, le directeur Mohamed, parce que c'est vraiment tout un partenariat entre nous. Alors, d'abord, et saluer aussi tout le personnel de la coopération depuis les années 90-93 jusqu'à nos jours, parce que c'est des équipes qui se sont vraiment succédées vraiment au CECI depuis les années 90-93 jusqu'à nos jours, et je les salue tous et toutes parce qu'ils ont tous participé aux résultats que nous avons obtenus à l'état actuel. Alors, pour dire que ça, pour nous, les femmes sénégalaises, et particulièrement les femmes de ma génération, nous avons débuté vraiment notre partenariat, notre chemin avec le CECI dans les années 93. À l'époque, il y avait des organisations de la société civile qui travaillaient particulièrement sur ce qu'on appelle les intérêts pratiques, l'approche des intérêts pratiques. C'était la FAFS, la Fédération des associations féminines, les organisations qui étaient affiliées à des corporations comme les sages-femmes, etc., etc. Alors, il y avait très peu d'ONG vraiment féminine ou féministe qui travaillait systématiquement sur ce qu'on appelle actuellement les enjeux stratégiques, c'est-à-dire les intérêts des femmes. Alors, si vous vous souvenez, en 1994, le Sénégal a accueilli la conférence africaine préparatoire de Beijing, où l'Afrique entière était au Sénégal et tout le système des Nations Unies, en plus des autres pays, des autres continents, pour préparer la rencontre mondiale de Beijing de 1995. C'est dans le siège de la préparation en 1993 que nous avions eu beaucoup de partenariats avec le CECI, nos organisations prises isolément. Moi, je me nomme Safia Toudjoub, je suis la présidente du collectif des femmes pour la défense de la famille, qui est mon organisation d'origine. À l'époque, il y avait aussi la professe de Kaolack, dirigée par notre défunte sœur, que Allah ait pitié de son âme, Binta Sarr. Et il y avait l'ANAFA, l'association pour l'alphabétisation des adultes aussi, ainsi que le CONAF, l'organisation de Djibril Ousmane qui s'occupait d'alphabétisation, et l'ASBEF qui s'occupait de santé. Alors, nous avons développé des partenariats avec le CECI pour vraiment d'abord prendre conscience de la nécessité vraiment de faire émerger des femmes et des organisations de femmes sur l'échiquier national et ensemble de préparer la conférence africaine préparatoire parce que c'est le Sénégal qui devait accueillir l'Afrique et ce sont les femmes africaines qui devaient être au rendez-vous ici. Et donc, c'est comme ça que nous avons noué ces partenariats avec CECI qui nous a aidés à renforcer nos organisations, à savoir exactement ce que nous sommes. Et pousser même certaines femmes à vraiment faire émerger des organisations. Quand nous avons eu véritablement à préparer un plan stratégique pour nous, dans le cadre vraiment de la préparation de la conférence, nous nous sommes rendus compte que nos organisations prises isolément sont très faibles. ANAFA de côté, APROFES à Kaolack, COFDEF à Thiès et ASBEF un peu à Dakar et un peu à travers le territoire. À l'époque, Yehou Yehoui était encore une organisation vivante, Yehou Yehoui de Marie-Angélique Savané. Et donc, on a fait le bilan de nos organisations, l'état des lieux sur l'échiquier national, mais en corrélation aussi avec l'état des lieux sur le statut des femmes dans les politiques du gouvernement sénégalais.
D'accord.
Et ce qui a émergé vraiment de la situation de référence, c'est que les organisations de femmes sont très, très minimes sur l'échiquier national. À l'époque, c'est le Congat qui regroupait toutes les organisations de développement et rares étaient les organisations de femmes membres du Congat ou qui étaient officiellement reconnues ou même qui existaient. Et donc, c'était vraiment très faible. Et nous avons fait le bilan aussi vraiment des politiques en direction des femmes. Depuis...
Qu'est-ce que ça a donné, le bilan?
Oui, et j'en viens. D'ailleurs, c'est cette situation de référence sur le pays qui nous a montré que les femmes sont très, très, très sous-estimées, très minimes, très peu prises en charge dans le cadre vraiment des politiques et programmes. À l'époque, le Sénégal n'avait pas encore vraiment développé ce qu'on appelle l'approche genre. C'était l'approche IFD, intégration des femmes dans le développement que le gouvernement pratiquait dans les programmes de développement, c'est-à-dire prendre en charge les femmes après la conception, après en réalisant sur le terrain les programmes, qu'ils se rendaient compte que les femmes existaient et qu'il fallait les prendre en charge. On le matérialisait par vraiment l'approche de la ghettoisation des femmes dans les projets de développement et l'approche de développement aussi du gouvernement et des ONG qui ne s'occupaient pas d'intérêts stratégiques pour les femmes mais qui ne s'occupaient que d'intérêts pratiques, c'est-à-dire continuer à parquer les femmes dans les projets maraîchers de carottes, de production de carottes ou de navets. Un point, c'est tout. Mais pas dans la vision stratégique de l'agriculture, ni dans les positions de pouvoir concernant tous les domaines d'activité.
D'accord.
Et donc, on était très faibles et la situation du pays n'était pas du tout lumineuse à l'approche de la conférence africaine.
D'accord.
Et il fallait nécessairement maintenant faire émerger une perspective beaucoup plus noble qui puisse nous amener à la conférence africaine et peut-être nous amener à la conférence mondiale.
D'accord. Madame Diallo, vous avez entendu la jeunesse qu'a fait Madame Diop de la conférence de Beijing à nos jours. Des améliorations, certes, sont notées, mais on sent toujours que les femmes restent toujours marginalisées par rapport à l'accès au financement, par rapport à l'accès au marché du travail. Alors, quelles sont aujourd'hui les actions concrètes que les CECI mènent sur le terrain pour corriger cette donne, par exemple? Parce qu'il n'y a pas que les femmes, les jeunes femmes aussi vivent une discrimination qui leur est spécifique. Elles sont plus affectées, par exemple, par la violence basée sur le genre. Ça, on va en revenir avec Mme Diop qui travaille beaucoup là-dessus. Leur parole est souvent limitée au niveau communautaire. Quelles sont les actions que vous menez sur le terrain pour corriger cette donne, Madame Diallo?
Exactement. Dans le cadre de l'approche de renforcement du pouvoir économique des femmes développée par le CECI, on prend en compte cette donne. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'intersectionnalité. Et donc, ici, on voit que l'âge est un facteur aggravant de la situation des jeunes filles. Et pour cela, il y a un cadre d'intervention dans lequel il y a des composantes dépendamment des opportunités ou du besoin. Et pour ces jeunes filles-là, nous pouvons utiliser le levier de création d'emplois ou d'entreprises. Mm-hmm. Et en accompagnant ces jeunes-là dans leur renforcement de leurs capacités en entrepreneuriat, par exemple, en finançant avec les fonds thématiques ces mm-hmm. jeunes pour créer des petites entreprises et en les soutenant sur le volet technique des entreprises, mais aussi et surtout en les accompagnant dans le renforcement des capacités, les mettre au courant qu'il y a des financements qui existent. Parce qu'aujourd'hui, comme Mme Safiatou a dit en 94, peut-être que ce n'était pas très rose, mais aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal quand même a mis une stratégie pour la promotion des droits des femmes et pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Mais la plupart de ces filles-là ou de ces femmes ne savent pas que ces programmes-là existent. Donc le CECI organise souvent des ateliers d'information de l'accès au financement, de comment créer une entreprise, par exemple. Et des fois, les accompagne à monter des projets. Doter avec des outils de gestion. Et ici, il y a le projet aussi VLF qui s'occupe quand même du droit des filles et des femmes. Et ici, il peut y avoir aussi des ateliers de leadership pour aider ces filles-là à non seulement connaître leurs droits, mais à pouvoir communiquer dessus. Et impliquer les hommes, parce qu'il est important d'impliquer les hommes. L'amélioration du statut des femmes passe par l'ouverture et surtout la reconnaissance des hommes que la masculinité dominante entrave quand même la capacité des femmes et nuit au développement en général.
D'accord. Alors, nous avons aussi sur ce sujet, je le rappelle, M. Djibril Ousmane Ndong. Vous êtes le responsable chargé du suivi et évaluation du réseau Sigil Djigen. Alors, M. Ndong, en tant qu'organisation de défense des droits de femmes, quelle action concrète vous réalisez au profit des femmes dans ce réseau Sigil Djigen?
Merci, Mme Ndiaye. Merci au CECI qui offre en tout cas ses tribunes au réseau Sigil Djigen. Mm-hmm. Merci également à la radio Trade FM. Je pense que depuis 1993-1994 où le réseau Sigil Djigen a été mis en place jusqu'à nos jours, je pense que beaucoup d'actions sont menées en faveur des femmes. Et je pense que Madame la Présidente a fait un rappel tout à l'heure. Disons, le réseau travaille au niveau de plusieurs domaines thématiques et le réseau est très connu au Sénégal pour sa force de plaidoyer. Je pense que tous les combats qui ont été menés depuis le début des années 90 pour la promotion de la femme, le réseau a pris une part très importante. Le réseau travaille également beaucoup dans la communication. Le réseau travaille également par rapport au VBG, donc les violences basées sur le genre. Et nous avons un point d'écoute au niveau du réseau qui, en tout cas, reçoit des femmes en détresse, en difficulté, et qui, après écoute, les oriente, que ce soit vers les professionnels de la santé ou vers les professionnels juridiques. Le réseau travaille également beaucoup dans le cadre de la santé de la reproduction. Et je pense que Madame la présidente du réseau Sigil Diguen est par la même occasion la présidente de la coalition des organisations de la société civile pour le repositionnement de la planification familiale. Donc aujourd'hui, je pense que le réseau est bien connu dans les 14 régions du Sénégal à travers les actions qu'elle mène.
Madame Diallo, au moment où vous voulez améliorer le pouvoir économique des femmes, le constat est que les femmes ont moins de chances que les hommes d'accéder au marché du travail, même à diplôme égal hein, avec les hommes. Comment expliquez-vous cette discrimination?
Bon, cette discrimination s'explique par le fait que la pesanteur culturelle et religieuse est encore d'actualité. Et que nous avons encore besoin de plus plaider en faveur des femmes, malgré les stratégies qui sont sur place. Et d'ailleurs, ça, c'est, je pense que ce que vous avez dit là, c'est général, c'est dans le monde entier. Et il y a la tâche aussi, il y a le poids des tâches domestiques. Il faut conscientiser vraiment la population et avoir des masculinités positives comme M. Ndong est avec nous ici et vraiment faire en sorte que montrer l'importance à tous les niveaux de la participation des femmes à l'économie du pays, encourager les filles à ne pas céder, les informer sur leurs droits et je pense que ça devrait aller.
D'accord. Madame Diop, je vois que vous êtes pressée de répondre à cette question. Pourquoi les femmes sont toujours discriminées par rapport à l'accès du marché du travail, même s'ils ont le même diplôme que les hommes?
Oui. D'abord, il faut remonter un peu le temps par rapport vraiment au patriarcat et au matriarcat, parce qu'il faut que nous puissions justifier pourquoi cette philosophie qui, aujourd'hui, nous domestique dans les micro-réalisations et vraiment nous exclut des grandes entreprises économiques du pays. Auparavant, l'Afrique était matriarcale, quoi qu'on dise. La femme comptait dans l'histoire de l'Afrique. Oui, elle occupait une place importante vraiment dans la communauté et dans la décision. Et même dans le système agraire, parce que notre économie reposait sur l'agriculture. Mais c'est avec la colonisation qu'on nous a véritablement amené davantage cette idéologie patriarcale qui est mondiale, hein, mais qui vraiment se reflète à travers le système moderne, vraiment de l'économie, à partir d'abord de l'éducation, oui, parce que les femmes, l'école, dès le départ, vraiment a complètement discriminé les femmes, les petites filles n'étaient pas prises en charge. Et donc, automatiquement, quand on n'est pas éduqué, on n'a pas une base vraiment de travail, le système économique, l'emploi devient difficile à gérer parce qu'on vous réclame des diplômes et des aptitudes. Et dès que vous êtes une femme, vous n'avez pas eu la chance d'aller à l'école parce que presque à l'époque, plus de 70% n'étaient pas à l'école. Vous êtes d'office exclu du système économique et vraiment de l'emploi salarié.
C'est un problème d'ordre culturel.
C'est un problème d'ordre, on peut dire d'ordre culturel. Mais en fait, ce que je veux expliquer, c'est que l'Afrique n'avait pas Vraiment, ce problème auparavant, c'est venu avec la modernisation, c'est venu avec la colonisation, qui a voulu tout simplement séparer les hommes des femmes et retourner les femmes dans les foyers et maintenant utiliser la force de l'homme pour l'économie à l'époque. Et ça s'est répercuté sur le système éducatif qui a complètement discriminé les filles. Et ça s'est répercuté sur l'emploi. Parce que les femmes n'ont pas de diplôme, n'ont pas accès aux emplois salariés. Et ça s'est répercuté sur la mentalité de développement qui ne prenait pas en charge l'apport de la femme dans la production. Et ce qui aujourd'hui a complètement marginalisé la femme dans le système économique. Maintenant que tout le monde sait que le développement se fait avec tous les bras valides, parce que 50% de la population sont des femmes et aucun pays ne peut se développer en laissant en rade les 50%. Les gens sont revenus maintenant à la théorie du genre, c'est-à-dire l'analyse des forces en présence et vraiment le besoin de prendre en charge cette force féminine, ces bras valides, vraiment pour le développement du pays. Et c'est ça qui a amené que nous en sommes à ce niveau de développement. Je pense que nous allons revenir sur le système éducatif, le niveau d'évolution, parce que nous avons connu des acquis très importants. Au niveau du primaire, nous avons dépassé les 50% d'enrôlement. Au niveau du secondaire, nous en sommes encore vraiment vers 30%. C'est au niveau de l'université que nous avons encore des déficits pour la formation des filles, leur maintien dans le système universitaire le plus longtemps possible pour en faire des leaders et vraiment de véritables managers capables de diriger le développement du pays. Mais pour le moment, l'analyse que nous faisons vraiment de la discrimination des femmes dans le système économique, c'est que c'est un système qui a privilégié la masculinité, l'homme au détriment de la femme et qui ne peut aucunement persévérer pour développer nos pays. Et actuellement, nous en sommes conscientes et c'est le monde qui a commencé à prendre conscience depuis la conférence de Nairobi jusqu'à présent avec la plateforme de Beijing. Et les pays africains ont véritablement pris conscience de la nécessité de changer de modèle. Maintenant, c'est là où le CECI a beaucoup de mérite. Je reviens encore sur les acquis.
D'accord.
En 93-94, le CECI a vraiment appuyé et a participé à l'émergence du réseau Sikitigen, qui fait partie des outils, des instruments vraiment de changement, aussi bien au plan culturel, au plan économique, au plan politique, pour prendre en charge vraiment cette masse critique des femmes pour le développement de notre pays. Et tout le mérite revient véritablement au CECI, à la coopération canadienne, qui est la première coopération à investir sur la question des intérêts stratégiques. Je le dis et je le redis. Auparavant, toutes les coopérations étaient là, mais il n'y a que la coopération canadienne qui avait mis l'accent sur cette position stratégique des femmes dans le pouvoir pour changer les choses.
Mais quel commentaire vous faites de ce constat, hein? Les femmes jouent un rôle dans les exploitations familiales agricoles, par exemple. N'empêche, elles ont toujours des problèmes d'accès à la terre. Elles ont, même pour leur contribution économique nationale, les statistiques sont limites par rapport à leur contribution. Est-ce que le réseau Sikitigen est en train de faire, par exemple, des actions pour concentrer leurs contributions dans l'économie sénégalaise?
Absolument.
Celles qui sont surtout dans
Absolument. Parmi les 12 points de la plateforme de Beijing, il y a la question de l'autonomisation, la lutte contre la pauvreté. Et là, il faut nécessairement l'accès à la terre. La terre fait partie des moyens de production de richesse. Et les femmes doivent maîtriser les moyens de production de richesse, doivent être vraiment des partenaires au même pied d'égalité que les hommes pour l'État dans toutes les politiques de développement, particulièrement sur l'agriculture. Mais nous savons que dans notre pays, comme vous aimez le dire, la tradition n'offrait pas la possibilité aux femmes d'accéder à la terre et d'en être propriétaire.
Oui.
Alors, qu'aujourd'hui, la terre est un moyen, un instrument de production extraordinaire, nous avons le devoir quand même d'intégrer la femme et de prendre en charge ses besoins d'accès et vraiment d'être propriétaire de cet instrument et de l'utiliser et d'en jouir au même pied d'égalité que l'homme.
Mmh.
Alors, il y a déjà, dans le cadre de nos rassemblements, de notre, des plateformes vraiment de plaidoyer, il y a des organisations comme Wildaf, parce qu'il ne faut pas que nous puissions nous dire c'est nous, le réseau Ségédiguen, qui prenons en charge tout. Wildaf, qui est un réseau des femmes africaines sur les droits, qui a pris en charge la question foncière depuis les années 94. Et qui travaille là-dessus pour que la femme puisse avoir le droit d'accéder à la terre, d'en être propriétaire et de l'exploiter au même pied d'égalité que l'homme.
Mmh.
Et actuellement, nos textes, dans leur réalité, ne nous privent pas d'être vraiment propriétaire, mais c'est la pratique.
D'accord.
Dans les sociétés, la pratique dans les communautés qui exclut les femmes parce que tout simplement il y a ce qu'on appelle cette culture vraiment ambiante d'exclure les femmes dans les instruments, la possession des instruments.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Monsieur, donc sur cette question, c'est vous qui gérez le suivi et évaluation à ce réseau Ségédiguen. Sur le terrain, qu'est-ce que les femmes vous dites, le fait de ne pas prendre en compte leur contribution sur le plan économique? Qu'est-ce qu'elles vous racontent, ces dames?
Oui, je pense qu'il faut partir d'un constat. Et le constat est que, comme Madame la Présidente l'a dit tantôt, nous sommes dans une société qui est sous le pouvoir des hommes. Et par conséquent, ici, la terre, ou en tout cas les meilleures terres, sont réservées aux hommes. Ce qui fait que les femmes, elles ont accès aux terres les moins fertiles, et ce qui n'est pas du tout normal. Je pense que le combat, comme elle a dit, a été porté par des organisations de la société civile pour en tout cas permettre un accès des femmes aux fonciers. Mais également, le constat est que des expériences ont été notées. Hein.
Mm-hmm.
Par exemple, dans le Nyombato, pour ne pas le citer, le maire s'était engagé en tout cas à délibérer des terres pour les femmes. Mais malheureusement, ces femmes, faute de pouvoir exploiter ces terres-là également, étaient obligées de les sous-louer ou de les céder encore aux hommes.
Mmh.
Donc, ce qui fait que là, il y a des problèmes.
Mmh.
Mais je pense que, hormis la question du foncier également, il y a le problème de l'accès aux intrants agricoles. Et là également, il y a problème. Hein. Autant les femmes ne peuvent pas accéder aux bonnes terres, autant également la distribution de l'engrais se fait au profit des hommes, ce qui fait également que là, il y a des difficultés pour les femmes de pouvoir obtenir de bons rendements. Mais ailleurs également, si vous allez au niveau des femmes transformatrices, par exemple, des produits halieutiques, là également, elles ne sont pas propriétaires ou très peu sont propriétaires, par exemple, des moyens de production, les pirogues, les moteurs, les filets, ce qui fait que elles également, elles sont obligées de suivre le dictat de ces hommes qui sont
sur
la chaîne de valeur.
Mmh.
Donc, je pense qu'aujourd'hui, le combat, c'est de permettre aux femmes d'accéder au financement, d'accéder également à la formation, parce que ce que nous avons vu dans le passé également, les femmes, elles sont très battantes, elles savent créer des ressources, mais également, elles savent dépenser de manière inutile, excusez-moi également, ces ressources-là.
Madame Diallo, ces femmes peuvent lutter jusqu'à accéder au marché du travail, oui. Mais une fois le travail acquis, ces femmes gagnent moins que les hommes dans tous les secteurs et dans toutes les professions. Comment est-ce que vous expliquez ce fait également?
Oui, c'est vrai, les statistiques le disent, que les femmes gagnent en général entre 70 à 90% ce que les hommes gagnent. Et je pense que ça encore, c'est comme a dit Madame la Présidente tout à l'heure, je pense que c'est à cause des pratiques, à cause des normes sociales, des apesanteurs culturels, socioculturels et religieux. On pense souvent que les femmes, peut-être, ne peuvent pas faire autant que les hommes. Et pour cela, le CECI, dans ses valeurs de coopération, parce que le CECI considère que les humains ont une communauté de destin et qu'on doit relever les défis ensemble. C'est pourquoi, d'ailleurs, le CECI travaille avec ses partenaires féministes bien reconnus, comme le réseau Sigdigin, à porter le combat avec des plaidoyers, des stratégies, en tout cas, d'employabilité pour les femmes, et surtout de faire en sorte que les femmes soient dans les sphères de décision pour qu'ils prennent à bras le corps leur... Les décisions qui les concernent, par exemple. Donc, je pense que c'est toujours dans le plaidoyer, les stratégies de communication, de sensibilisation, de voir les décideurs et décideuses pour qu'il y ait des changements de mentalité, d'implication. C'est une stratégie d'inclusion de tous les bras valides, comme a dit Madame la Présidente, de la société, pour qu'on sache qu'une femme, une fois que les stéréotypes sont tombés, peut faire autant que les hommes ou sinon plus. Et concernant, tout à l'heure, vous aviez parlé du fait que les femmes avaient moins accès aux emplois, il faut aussi avoir une stratégie de faire en sorte que les femmes puissent travailler dans les professions dédiées auparavant aux hommes, et d'où aussi l'importance de l'entrepreneuriat, et d'aider à créer elles-mêmes leur entreprise, et surtout même créer des valeurs et employer d'autres personnes.
D'accord. Cette question présente les femmes qui gagnent moins que les hommes, et ceci on le voit dans tous les secteurs et dans toutes les professions. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui de procéder à une discrimination positive à l'endroit des femmes? Est-ce que vous portez ce plaidoyer de discrimination positive?
Oui, la discrimination positive, c'est une étape vers l'égalité. Alors, parce que tout simplement, nous ne sommes pas sur les mêmes chances, les mêmes positions de chance, qu'il faut nécessairement des stratégies pour pousser les femmes à atteindre un niveau vraiment d'aptitude pour pouvoir être au même pied d'égalité que l'homme sur tous les domaines de développement. Mais je voudrais juste revenir sur la question du salaire. C'est dans le monde capitaliste, quoi qu'on dise, dans l'économie de marché, que effectivement nous avons vu que il y a un travail égal, il n'y a pas de salaire égal entre les hommes et les femmes. Mais c'est dû au rôle attribué vraiment aux femmes et aux hommes dans la production, comme dans la reproduction. C'est vraiment le cantonnement dans les rôles, comme on aime bien le dire. Les femmes sont cantonnées dans le rôle de reproduction de la force de travail de l'homme, c'est-à-dire tout ce qui est vraiment dans la sphère privée, même au niveau de l'agriculture, ce qu'elles avaient et ce que la mentalité, le culturel voudrait qu'elles occupent vraiment dans la chaîne de valeur, tout ce qui est activité de vente ou bien de transformation, ou bien qu'elles s'occupent vraiment des champs pour avoir de quoi retourner dans la cuisine et rester dans la sphère privée. Et ce cantonnement-là dans la sphère privée pour la reproduction de la force de travail de l'homme qui doit avoir maintenant la capacité d'être dans la production et d'occuper vraiment les forces productives fait que à l'état actuel, même si vous avez la possibilité d'accéder à la production, en tant que femme, ce statut-là, avec ses corrélations vraiment de droit, fait que vous restez en dessous du salaire attribué à l'homme. Parce que, d'abord, du point de vue vraiment de la position salariale, on donne à l'homme la possibilité d'indemnité sur ses enfants. Alors qu'on ne le donne pas à la femme. Que nous, c'est nous qui enfantons. C'est nous qui pouvons jurer vraiment de la naissance de ces... Oui. Mais ce sont les hommes qui étaient payés. Même les indemnités d'accouchement étaient payées aux hommes à l'état à l'époque. Imaginez la femme qui accouche, mais on paye les indemnités d'accouchement à l'homme sur son salaire. Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup de luttes quand même. Et l'État du Sénégal a corrigé la législation. Et à l'état actuel, nous avons quand même connu un léger mieux sur vraiment le traitement des salaires, quand même, bien même que nous ne sommes pas encore à travail égal, salaire égal de façon systématique. Mais ce qui est sûr, c'est que tout est dans vraiment la position et le rôle joué vraiment par les deux sexes, que ça soit l'homme ou la femme, dans la production, dans la reproduction et dans le rôle communautaire que nous oublions très souvent, parce que c'est ce rôle communautaire qui donne accès au pouvoir et au pouvoir politique pour pouvoir vraiment régler les grandes questions d'orientation et de politique qui pérennisent ou qui enlèvent ces questions de discrimination.
D'accord.
Alors, donc, à l'état actuel, le Sénégal a connu un léger mieux du point de vue des textes, mais il faut que les femmes elles-mêmes puissent comprendre leurs droits et véritablement le réclamer pour qu'elles puissent accéder à ce qui a été fait.
Alors, chers auditeurs, je rappelle juste que vous suivez votre émission Ceci en parle. Nous sommes à notre deuxième numéro et nous parlons de cette thématique qui est l'amélioration du pouvoir économique des femmes. Alors, sur cette deuxième partie, on va parler de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages au Sénégal qui est publiée récemment par l'ANSD. Enquête qui indique que les ménages dirigés par les femmes sont moins pauvres que ceux dirigés par les hommes. C'est une bonne nouvelle, Madame la Présidente.
Absolument.
Alors, est-ce qu'une preuve que les femmes gèrent mieux, aussi bien que dans leurs activités qu'au foyer?
Oui, ma sœur, ça c'est clair. Ça confirme notre thèse, vraiment, de la valeur de la femme comme personne humaine, vraiment très sensible à la communauté, à la justice, à la démocratie, à la dignité de l'homme. Vous savez, quand une femme vraiment a des revenus dans la famille, ces revenus servent directement à améliorer les conditions de la famille. Elle s'occupe de ses enfants, de leur nourriture, de leur habillement, de leurs études. Elle s'occupe des anciens, elle s'occupe des personnes âgées. Elle s'occupe des relations dans la communauté, entre les familles. Elle gère ça avec leur propre avoir. Même n'étant pas salariée, les moindres revenus qu'elles ont dans la société servent véritablement à investir dans la famille. Tandis que pour l'homme, quand il arrive à un niveau de salaire, ce qu'il pense, ce n'est pas améliorer les conditions de sa famille. Non, loin de là. C'est d'abord d'acheter un véhicule, une voiture beaucoup plus luxueuse que ce qu'il a. Si c'est en Afrique, c'est d'aller chercher une deuxième femme. Ou bien de construire sa maison, sa propriété, son domicile. Et non, d'améliorer d'abord les conditions vraiment de vie de sa famille de façon immédiate, la santé, l'éducation, la nourriture, les besoins primaires de sa famille et de sa communauté. Donc toute la différence est à ce niveau-là et la société gagnerait encore je le dis souvent, à investir sur l'éducation des filles et des femmes et à véritablement renforcer leur capacité d'accéder aux moyens de production, à la richesse, pour que la société puisse quand même connaître une meilleure façon de vivre en communauté. Parce que la femme, elle est d'une générosité extraordinaire et elle est d'un altruisme, elle pense aux autres, alors que véritablement, vous me direz que c'est le moule éducationnel qui produit aussi ça. Mais ce que nous avons vécu, ce que nous savons, c'est que l'homme est beaucoup plus égoïste, beaucoup plus égocentré et beaucoup plus centré sur sa propre façon de vivre que vraiment le bien-être de sa famille. Et c'est ce que les études confirment sur les ménages gérés par les femmes.
Madame Diallo, sur cette étude de l'ANSD publiée en septembre dernier, qui indique que les ménages dirigés par les femmes sont moins pauvres que ceux dirigés par les hommes, est-ce que votre volet amélioration des conditions de femmes au niveau économique et social n'en est pas pour quelque chose?
Mais ça peut être, ça peut avoir quelque chose, mais je vais d'abord appuyer les dires de Madame la Présidente, parce qu'il est connu quand même qu'en matière de culture financière, les femmes ont une culture financière plus accrue que les hommes. Et on a une illustration parfaite, c'est sur le microcrédit au Bangladesh, qui a valu à Mohamed Younous d'avoir le prix Nobel de la paix en 2006. Vous savez, c'est lui l'inventeur du microcrédit. Et avec son invention, il a été prouvé que les femmes remboursent, par exemple, plus que les hommes. Et d'ailleurs, son organisation est composée à 94% de femmes. Et comme a dit Madame la Présidente, la femme souvent préserve plus sa réputation, donc a plus peur de faire honnir, en tout cas d'avoir une mauvaise image qui va se répercuter sur sa famille. Donc, du coup, elle paye plus rapidement. Donc, dans notre approche du CECI, on investit plus sur les femmes, non seulement pour une égalité entre les hommes et les femmes, pour, en tout cas, briser un peu la disparité, et avec des discriminations positives au niveau des femmes, parce que, bon, on pense que c'est une grande partie de la population qu'il faut prendre en charge, qui ont des talents, qui ont des atouts, et qui peut vraiment peser dans le développement du Sénégal ou des autres pays où le CECI est présent.
Alors, monsieur Ndong, la dernière enquête qui révèle une accentuation de la pauvreté au Sénégal, et si on sait que les femmes sont les plus impactées, selon vous, quelles sont les meilleures stratégies pour l'autonomisation des femmes?
Oui, je pense qu'il faut d'abord relativiser l'analyse qui a été faite par mes deux dames.
Donc, vous êtes en train de dire que vous n'êtes pas d'accord.
Parce que, bon, je pense que on nous dit que 76% des ménages qui sont dirigés par les hommes, et le reste c'est dirigé par les femmes, donc vous voyez le taux, il y a une différence. Et même par rapport à cette pauvreté là également, donc c'est pour les femmes, les ménages dirigés par les femmes, c'est à peu près 22% et à peu près 42% ou 43% pour les ménages dirigés par les hommes. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'enquête a révélé que la pauvreté s'est accentuée. Même s'il y a une baisse du taux de la pauvreté de 5 points, mais quand même, il y a une hausse des effectifs de pauvres.
Oui, il y en a plus de 200 000.
Voilà, plus de 200 000. Et cela fait que aujourd'hui, je pense que il faut des stratégies fortes pour réduire ce taux de pauvreté qui, certes, est plus accentué pour l'analyse qui a été faite ici au niveau des femmes. Mais Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est-à-dire, c'est d'abord de renforcer les capacités des femmes, surtout en entrepreneuriat, comme Madame Diallo le fait bien, et ensuite mettre à la disposition de ces femmes-là des crédits qui puissent leur permettre, en tout cas, d'occuper la chaîne de valeur par rapport à toutes leurs activités économiques, de la production à l'écoulement. Et je pense que si on parvient à organiser les femmes en petites et moyennes entreprises, hein, cela permettra de produire de la valeur. Mais aussi, je pense, le renforcement de capacités, là où c'est important, parce que tantôt, je l'ai dit lors de mon intervention, les femmes, elles savent créer de la valeur, mais malheureusement, ces ressources-là, quelquefois, elles les réinvestissent dans des activités sociales, ce qui freine leurs activités économiques. Mais je pense que, en tout cas, de plus en plus, les femmes commencent à comprendre ce phénomène. Moi, j'ai vu des femmes aujourd'hui qui sont leaders dans leur zone. Pourquoi? Parce que ce sont elles qui détiennent le pouvoir économique. Maintenant, les hommes vont dans les caisses de crédit des femmes pour emprunter. Les femmes prêtent aux hommes retraités qui finissent leurs provisions et qui ont besoin de rallonge, vont dans les centrales d'achat des femmes pour s'approvisionner et rembourser après. Donc, je pense que voilà, c'est ces sortes d'initiatives-là qu'il faut faire pour pouvoir, en tout cas, asseoir un développement des femmes.
Sur cette question, Madame la Présidente, sur l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des femmes, qui révèle que la pauvreté s'est beaucoup accentuée dans les régions comme Tambacounda, comme Sédhiou, comme Kédougou. Est-ce que dans ces régions, il existe des organisations fortes qui portent le plaidoyer des femmes?
Bien sûr, il existe des organisations parce que nos organisations nationales ont des antennes au niveau de ces régions. Le réseau Sigildigen, comme le COSEF, comme l'AJS, nous travaillons toujours dans ces régions. Mais là n'est pas le problème, ma sœur. Le problème, c'est à trois niveaux. Dans un premier temps, c'est que toutes les politiques économiques, les politiques d'autonomisation de la femme que l'État du Sénégal vraiment annonce et vraiment réalise sur le terrain, doivent d'abord être évaluées. Évaluées vraiment à l'aune des régions pour savoir exactement quel est l'impact de ces politiques d'autonomisation, l'impact du financement sur ces femmes-là et sur les catégories les plus pauvres dans ces régions les plus reculées. Parce que pour vraiment éradiquer, éliminer les discriminations, il faut partir de l'analyse de la situation. Les gens ont, depuis 1995, beaucoup élaboré, beaucoup investi sur l'autonomisation, la promotion économique des femmes. Mais il nous faut nécessairement prendre le taureau par les cornes. Je l'ai dit tantôt dans une émission sur la prostitution dans les zones aurifères. Parce que nous considérons que la prostitution, véritablement, c'est une discrimination extraordinaire. C'est vraiment une violation flagrante des droits des femmes parce que notre dignité humaine doit être préservée. Alors, il nous faut vraiment aller vers l'évaluation de l'impact des investissements sur l'autonomisation des femmes, pour savoir exactement où le problème se situe. Maintenant, voir les gaps qui existent en matière d'investissement à trois niveaux aussi. Au niveau suprême de l'entrepreneuriat, il faut que nous puissions analyser exactement quel est le degré vraiment d'implication, d'adhésion et de participation des femmes dans le niveau macroéconomique, dans l'entreprise, les marchés d'État, les entreprises nationales, les multinationales, quelle est notre vraiment participation, notre position.
D'accord.
Au niveau middle, sur sur le marché directement, mm-hmm. il faut que nous puissions aussi évaluer le gap qui existe, mm-hmm. et les politiques qui existent en matière vraiment de promotion et de la femme à ce niveau. Mais le troisième niveau, c'est le niveau de pauvreté. D'accord. Là où Mère Nobaye qui vend vraiment l'état de d'oignons et de mangue au marché, quel est l'impact des politiques économiques sur la table de Mère Nobaye, et vraiment comment renforcer Mère Nobaye, parce qu'il ne s'agit pas de le dire, il s'agit de le faire, et il s'agit d'un minimum de volonté et vraiment une enveloppe qui vise directement ces ayants droit là, et dernière que ça question. Soit traduit de vraiment dans les conditions pour que nous puissions relever le défi.
Dernière question avec vous, on est à la veille des élections locales. Quelles sont les chances pour les femmes de diriger les collectivités en 10 secondes?
Très bien. Ah, c'est une très grande question en 10 secondes.
Madame la Présidente.
Alors, rapidement, vous savez, nous avons lutté pendant 3 décennies pour avoir la loi sur la parité. Mm-hmm. Mais ça, c'est un gain que nous prenons en charge. Mais l'autre, le cap, c'est ce n'est pas seulement d'accéder vraiment aux sphères de décision, mm-hmm. c'est d'accéder au pouvoir de décision. Et le pouvoir de décision, c'est être maire, être décideur. Mm-hmm. Et c'est là où nous avons actuellement le plus de problèmes. D'accord. Avec les élections locales, mm-hmm. à l'état actuel, les femmes s'organisent, vous savez, le COSEF, l'AJS, le réseau Sigidjigen. Mais il nous faut avoir une stratégie et beaucoup de solidarité, parce que le pouvoir ne se donne pas, il s'acquiert, et les hommes sacrifient au pouvoir. Ils savent pertinemment bien qu'ils ne veulent pas lâcher du lest et ça ne se donne pas. Il faut se battre pour
beaucoup.
Accéder et
merci,
avoir présidente. Le maximum de maire.
Merci, voilà. Présidente, ouais. Votre plaidoyer. On espère que ça va passer. C'était un plaisir de vous accueillir. Je rappelle aux auditeurs que nous étions avec Mme Safiatou Diop, présidente du réseau Sigil Digen, M. Djibril Ousmane Ndong, membre du dit réseau, responsable chargé du suivi évaluation, et Mme Dialikatou Barry, vous êtes également volontaire au Centre canadien d'études et de coopération internationale. Merci.
Merci.
Et on se donne rendez-vous dans un mois pour un autre numéro de Ceci en parle. Restez à l'écoute car nos programmes vont se poursuivre.
Trade FM 88.1, la radio des affaires et de la consommation.
Ceci en parle, une nouvelle série d'émissions radio mensuelle présentée par Ceci Sénégal. Ceci, Centre d'études de coopération internationale, est une société canadienne à but non lucratif. Sa principale mission, combattre la pauvreté et l'exclusion sociale. Depuis 1984, Ceci travaille, entre autres, au renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles de la société civile, au développement économique durable dans le milieu rural, à la sécurité alimentaire et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Abordant des thèmes différents à chaque émission et sur des sujets qui intéressent les femmes et les jeunes Sénégalais, une animatrice s'entretient avec des spécialistes du Ceci Sénégal. Un rendez-vous à ne pas manquer. Ceci en parle, votre nouvelle émission.